Et la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Il n'est pas certain que M. de La Fontaine ait pris son inspiration dans l'évangile de ce jour, lorsqu'il écrivit « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf ». C'est plutôt chez Ésope que l'écrivain fabuliste s'est alimenté. Pourtant, l'histoire du pauvre amphibien pourrait bien, elle aussi, nous éclater au visage. Car l'intérêt n'est pas petit de mesurer avec une justesse bien réelle la conséquence qu'il peut y avoir à se surestimer. Au reste, la morale de cette fable devrait achever de convaincre le pharisien qui sommeille en chacun de nous. La voici. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Mais Jésus n'est pas poète et son propos va bien au-delà. Contrairement à ce que nous pensons souvent, Jésus ne cherche pas ici à humilier son auditoire. Je pense personnellement même qu'il a de l'estime pour ces hommes, ces pharisiens, qui connaissent les Écritures avec une grande profondeur. L'humilité dont Jésus nous parle ici est une réalité bien singulière. Il convient d'y réfléchir un instant. Il n'y a aucune humilité à se croire petit lorsqu'on l'est réellement. Et se surestimer n'est alors pas plus qu'une erreur de jugement, sinon un signe sans équivoque d'absence de jugement. Si nous ouvrons la fameuse imitation de Jésus-Christ, nous lisons au livre 2 et 3 à peu près ceci. Être humble, c'est ne pas s'estimer plus qu'on est, c'est se considérer dans sa bassesse, s'humilier pour des défauts, c'est avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Mais si la vertu d'humilité se résumait toute dans ce que nous venons de dire, précise le cardinal Raniero Cantalamessa dans un livre qu'il commit quelques années avant d'être empourpré, ce serait alors la seule vertu, encore que l'humilité n'est pas une vertu, mais enfin c'est un autre sujet, ce serait alors la seule vertu qui ne se trouve pas en Dieu. Dieu ne peut avoir de lui-même des sentiments de bassesse, ni parler de lui sur ce ton. Fin de citation. La véritable humilité, celle dont nous parle aujourd'hui Jésus dans l'Évangile, ne consiste pas à être petit, mais à se faire petit. Et pour se faire petit, frères et sœurs, il faut d'abord connaître et reconnaître ce que l'on est objectivement. Ainsi, l'humilité est absolument indissociable de la vérité. Quelqu'un de doué qui dit « je ne le suis pas » n'est rien d'autre qu'un menteur, mais certainement pas quelqu'un d'humble, sous ce point de vue-là du moins. Il est donc impossible d'être véritablement humble sans se connaître soi-même en vérité. C'est pourquoi l'humilité s'accomplit pleinement et de façon complète uniquement en Dieu. Dieu seul se connaît absolument. Et Dieu sait qu'il n'existe rien au-dessus de lui-même. Aussi, lorsque Dieu veut poser un acte en dehors de lui-même, il ne peut faire autrement que descendre. Telle est l'humilité. Saint François d'Assise s'adressera à Dieu en lui disant « Tu es humilité ». Ainsi, lorsqu'il invite son auditoire à s'installer à la dernière place, Jésus invite l'homme à prendre la place que Jésus prend. C'est complètement dingue. Cette parabole nous parle de Jésus qu'il accomplit à la perfection, non seulement dans son incarnation, mais comme si cela ne suffisait pas jusque dans sa passion rédemptrice. L'acte d'humilité auquel Jésus nous invite et nous presse est donc un acte divin qui nous fait ressembler toujours davantage à Dieu lorsque nous consentons à le poser. Jésus veut bien plus que nous le croyons, que nous lui ressemblions. Dans la deuxième partie de l'Évangile, Jésus nous apprend quelque chose d'encore plus extraordinaire. À travers ses paroles, les siennes, nous comprenons aussitôt qu'il nous demande de ne pas nous servir des autres, ni calculer les choses selon notre intérêt. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois bien, en tout cas. Invité pour être invité, honoré en espérant un retour d'ascenseur, ça, il le condamne. Le regard qu'il dit nous inviter à poser est celui d'une récompense à attendre. N'attends rien des autres, Dieu te récompensera. J'ignore si vous avez déjà invité des aveugles, des boiteux à votre table lorsque vous projetiez de faire un banquet, par exemple un repas de noces pour ceux et celles d'entre vous qui ont marié leur fille ou leur fils, ou même une profession solennelle. Et si vous avez alors pensé à une récompense céleste? Je n'ai pas m'aventurer beaucoup que de présumer que vous ne l'avez pas fait ni même envisagé. Je peux me tromper. Il n'est pas sûr non plus que ce soit ce que Jésus demande et attend de nous. Car Jésus est lucide. Et il sait bien que si notre salut tenait à une pareille action, son ciel risquerait d'être presque aussi peu peuplé de créatures humaines que la lune l'est de grenouilles. Au moins celle-là, vous la retiendrez. Cet angle de vue basé sur la récompense cache en vérité, et là je suis très sérieux, quelque chose d'absolument bouleversant. Et lorsqu'un trésor est caché, il faut creuser. Qui sont ces pauvres, ces aveugles, ces boitiers, ces boiteux, ces estropiés? Qui sont ces êtres qui n'ont rien à rendre, rien à donner en échange de cette invitation au banquet de noces de l'agneau? Qui, sinon nous-mêmes, boiteux, nous le sommes, aveugles, nous le sommes, estropiés, nous le sommes, tellement pauvres. Et lorsque Jésus dit « Heureux seras-tu », de qui parle-t-il sinon de lui-même ? Jésus nous parle ici de sa joie, de son bonheur, de sa béatitude éternelle, de nous avoir tous invités gratuitement, boiteux, estropiés, aveugles et pauvres que nous sommes, à sa table. Quelle merveille! Encore une fois, retenons que Jésus ne peut jamais rien enseigner qu'il ne pratique lui-même. C'est un secret pour lire l'Écriture, ça. Mais Jésus aussi se désole dans cette parabole de tous ceux qui chercheront à prendre les premières places, car ces places sont déjà réservées par son Père, comme il le dira lui-même dans l'Évangile. Ainsi, à travers ces deux enseignements, Jésus nous invite à l'humilité et à la joie divine. Rien de moins. En nous invitant à agir comme il le dit, Jésus veut que dès ici-bas, nous puissions partager sa joie. Il désire que nous ayons un avant-goût de sa joie divine dès ici-bas, en imitant nous aussi son action. Pouvons-nous refuser à Jésus son invitation à avoir l'humilité de goûter sa joie dès ici-bas?